France Inter, le 18-20.
Faut-il autoriser les femmes seules et les couples de femmes à avoir recours à la PMA? Chez bon nombre de nos voisins, la question ne se pose même pas. Mais en France, cela reste interdit. Pourtant, c'était une promesse de campagne de François Hollande. Mais ce dernier, sans doute échaudé par le débat sur le mariage pour tous, n'a pas eu le courage de se lancer dans une nouvelle bataille. Résultat, les femmes célibataires et lesbiennes continuent de se rendre en Espagne, en Belgique ou au Royaume-Uni pour réaliser leur projet de maternité. En juin dernier, le comité d'éthique a donné son feu vert à la PMA pour toutes les femmes, avis qu'Emmanuel Macron avait promis de suivre, mais on sent le président nettement moins pressé sur ce sujet que sur la réforme du code du travail. Il faut dire que la Manif pour tous a repris du service, elle a d'ailleurs lancé ces derniers jours une campagne d'affichage qui fait polémique. Alors pourquoi tant de gêne sur ce dossier ? On ouvre le débat ce soir, au téléphone sonne, avec nos invités, le professeur Israël Nizan, chef du service de gynécologie des hôpitaux de Strasbourg, président du Collège national des gynécologues obstétriciens. Bonsoir Israël Nizan.
Bonsoir.
Isabelle Guéguen de la PGL, l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Ludovine Delarochère, la présidente de la Manif pour tous. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bien sûr la sociologue Irène Théry, spécialiste de la famille, qui est restée à nos côtés pour participer à ce débat. Franceinter.fr ou Twitter. Mot-clé Telson, vous pouvez aussi nous appeler et vous êtes déjà très nombreux. 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Un premier appel au standard de France Inter. Je pense que c'est Hélène qui nous appelle.
Oui,
bonsoir à vous Hélène.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Bonsoir à tous. Voilà, je voulais vous dire, j'espère que j'ai l'esprit ouvert et pour moi, je comprends très bien que des personnes veuillent avoir des enfants et qu'ils soient hommes, femmes, homo, pas homo, c'est pas la question pour moi. La vraie question, c'est la question de la parentalité. C'est-à-dire que, bien sûr, un désir d'enfant, ça se respecte, c'est magnifique, mais quand l'enfant est là, il faut lui donner une bonne vie. Donc, ça pose plein de questions, mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait un débat sur la parentalité. C'est pas la question, c'est pas d'être homo, pas homo, homme, femme. Maintenant, voilà, la question qu'il faut se poser avec l'avancée technique, c'est qu'est-ce que c'est que la parentalité ? Qu'est-ce que c'est que de mettre un enfant au monde ? Et par exemple, moi, une question que je me pose, j'ai pas la réponse, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que de mettre un enfant au monde et de pas pouvoir lui dire qui est son père ? Moi, ça me touche. Voilà, mais encore une fois, je suis contre la manif pour tous, avec tout le respect que j'ai pour vos invités. Et voilà, j'aimerais qu'il y ait une vraie réflexion sur la question de fond.
Eh bien, on est là pour ça, Hélène. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir appelé France Inter. Alors, avant de répondre à Hélène, moi, j'aimerais d'abord poser une question très simple au professeur Israël Nizan. De quoi parle-t-on exactement ce soir quand on parle de la PMA pour les femmes seules? En quoi ça consiste médicalement?
Médicalement, cela consiste à faire comme pour un couple infertile où il n'y a pas de sperme, ce qu'on appelle l'azoospermie. On a recours à une banque de sperme et le don est anonyme et gratuit. Et il y a 60 000 à 70 000 personnes qui vivent dans notre pays grâce à un don de sperme. Certaines savent qu'elles sont issues d'un don de sperme, certaines ne le savent pas. Les couples de femmes demandent la même chose que les couples infertiles par absence de sperme. Elles sont un couple et il y a une absence de sperme dans leur couple. Elles demandent que les centres d'aide médicale à la procréation auxquels elles participent par leurs impôts ne leur imposent pas une discrimination et que certains couples y soient acceptés et d'autres refusés. Elles disent au nom de quoi, pourquoi suis-je discriminé, ne serait-ce pas à cause de mon homosexualité ?
Alors, professeur Nizan, pour l'instant, en France, les femmes font cette demande. Théoriquement, les médecins ne devraient pas, s'ils respectaient la loi, y répondre, c'est ça ? Mais un certain nombre de médecins le font, et vous avez fait partie de ceux qui l'ont revendiqué.
Non. Aucun médecin en France, enfin, tous ceux que je connais...
Je veux dire, aide les femmes à réaliser ce projet, ici.
On a un devoir de conseil. Et si vous voyez le degré de souffrance et de déshérence de nos patientes, nous avons un devoir de conseil et personne ne pourra nous l'interdire. Nous orientons, nous conseillons, nous évitons à nos patientes de tomber dans des pièges et des mauvaises structures qui se sont organisées tout autour de la France pour recueillir ce marché. Et donc, oui, tous les gynécologues de France participent et aident, mais aucun n'y met la main. C'est-à-dire que nous sommes dans un état de droit et les médecins ne peuvent pas se permettre de faire des actes qui sont pour l'instant totalement interdits et réprimés. D'ailleurs, il n'y a eu aucun médecin condamné pour cela parce qu'il n'y a eu aucun acte médical de réalisation de ces gestes en France. Mais l'aide aux femmes, oui, elle est donnée et c'est normal.
Voilà, et donc vous les conseillez, vous les orientez, Isabelle Guéguen. Vous faites partie de ces femmes qui ont souhaité aboutir à une maternité, qui est allée chercher des conseils, j'imagine, et qui est allée à l'étranger pour réaliser ce projet. Est-ce que vous pouvez nous raconter en deux mots?
Oui, moi.
Je précise que vous êtes faites partie de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens.
Oui, absolument. Et donc c'est.
À ce titre que vous êtes là ce soir.
Exactement. Je suis là parce que je suis dans un couple lesbien et mère d'une petite fille de 2 ans et que voilà, je peux apporter mon histoire, mon expérience. Donc je suis membre de la PGL justement parce que il fallait bien que j'aille chercher toutes ces infos, que je me renseigne sur sur des gens qui étaient dans la même situation que moi, savoir comment eux avaient fait, comment ça s'était passé, comment allaient leurs enfants, où est-ce qu'ils étaient allés, etc. Donc c'était la première démarche, effectivement.
Et vous avez pu la réaliser, mais vous avez été obligé évidemment de partir. Et ça vous a coûté du temps, de l'argent, j'imagine.
Oui. C'est comme tous les projets PMA. Hein, ça prend quelques années, ça prend un petit peu de temps. Déjà, il faut décider, définir le projet, savoir comment on va, quel type de famille on veut fonder et quelle histoire on va mettre en place pour cet enfant. Nous, on a décidé de le concevoir par PMA, donc ça voulait dire forcément aller à l'étranger. Donc là commence la réflexion sur quel pays. Donc il y a plusieurs pays autour de la France qui le permettent et chacun a une législation différente. Est-ce que le donneur est connu ou non? Est-ce qu'il y a une limitation du nombre d'enfants ou non? Est-ce qu'il parle français ou non? Est-ce qu'il y a du délai d'attente ou non? Enfin, les tarifs sont pas les mêmes.
En tout cas, vous avez été obligé de partir. Est-ce que vous, pour répondre à Hélène qui posait cette question tout à l'heure, est-ce que vous êtes posé la question de ce que ça signifie que mettre un enfant au monde, la parentalité, dans un cas comme le vôtre, forcément?
Oui, alors bon, moi je me le suis peut-être pas posé en ces termes, mais c'est sûr que c'est pas un projet qu'on décide du jour au lendemain. Quand on est lesbienne, on tombe pas enceinte par hasard, hein. Donc c'est un projet très très mûrement réfléchi. Et comme je vous disais, dans l'association, on rencontre beaucoup d'enfants et de parents et on échange beaucoup. Donc moi, je pense qu'un enfant, il se construit par rapport à l'environnement relationnel et familial qu'il a. Et lui, ça ne lui pose aucun problème. Il grandit avec tout l'amour qu'on lui donne, tous les repères qu'on lui donne. Et c'est plus tard, quand on pointe du doigt, quand on stigmatise, quand on dit que c'est pas bien, que c'est pas normal, que c'est là que ça peut poser problème. Mais sinon, lui, il grandit avec ceux qui s'occupe de lui, et le père ne manque pas parce que il a une histoire, il sait très bien, ma fille, elle sait très bien d'où elle vient, comment elle a été conçue, elle a accès au dossier, elle a accès au donneur, et elle a au quotidien des parents, des grands-parents, des oncles et tantes qui l'aiment et qui savent d'où elle vient.
Ludovine de la Recherche, présidente de la MIF pour tous, quand vous entendez le témoignage d'Isabelle Guéguen, ça devrait vous rassurer.
Vous savez, dire que l'enfant n'a pas besoin de père, c'est une question immense.
Elle n'a pas dit ça, hein.
Vous avez dit que son père ne lui manque pas. Si je ne me trompe pas, votre petite fille est petite, enfin, ou votre enfant est encore tout jeune. Et au-delà du cas, de votre cas particulier à vous, je voudrais inviter à s'interroger sur les enfants, les besoins de l'enfant et un père auprès de son enfant. L'amour d'un père, la compagnie d'un père, un père qui rit avec son enfant, qui joue avec son enfant. Un père qui est fier de son enfant. Tout ça, c'est fondamental.
Il arrive qu'il n'y ait pas de père. Hein.
Malheureusement, par accident de la vie, vous avez raison. Et c'est très triste. Et on sait comme c'est un manque. Bien sûr, c'est une souffrance. Alors certains la surpassent, heureusement. Bien sûr. Mais ça n'en est pas moins une difficulté. Et vous disiez, madame, le problème, il vient du regard des autres. Non, il vient d'abord de l'intérieur même de l'enfant. Vous savez, quand votre enfant grandira, et vous verrez tous les enfants en grandissant, posent plein de questions. Et souvent, ils mettent le doigt sur les choses. Et puis les choses sensibles, importante, essentielle.
Ben, peut-être qu'elle lui répondra, son enfant. Hein.
Oui, oui, bien sûr, je n'en doute pas d'ailleurs.
Irène Théry. J'avoue que j'appréhendais un peu cette émission en me demandant comment vous alliez faire, Madame de la Rochère, en étant face à une maman. Et je vois que ça ne vous trouble pas du tout. Hein. Vous savez ce qui est bon pour son enfant. Ça ne vous gêne pas d'expliquer que son enfant va être malheureux devant elle. Bon, c'est quelque chose qui manifeste vos convictions, c'est sûr. Mais ça manifeste aussi une certaine fermeture, et même une fermeture terrible, à l'expérience de la vie. Moi, je suis une sociologue qui a été bouleversée par la connaissance du concret, par la connaissance des réalités. Je dirais, il y a 20 ans, j'avais posé moi-même des questions. J'étais pas tout à fait sûre qu'un enfant pourrait avoir deux mamans, etc. Je me disais ce que ça allait faire. Mais on voit les situations, on les étudie, on écoute les personnes, et à ce moment-là, on évolue. Et ce que je vous entends dire, c'est tout simplement que vous refusez quelque chose qui est déjà dans la loi. C'est-à-dire, un enfant peut avoir deux mamans. La loi française le permet. Depuis 1973, l'homoparenté est inscrite dans la loi. Vous avez fait des recours, certains ont fait des recours auprès du Conseil constitutionnel en disant « l'adoption doit mimer la nature ». Et le Conseil constitutionnel vous a répondu « il n'est écrit nulle part que l'adoption doit mimer la nature ». Donc, aujourd'hui, la procréation médicalement assistée, c'est simplement qu'un arrangement social qui est organisé depuis un demi-siècle, où un couple, comme l'a dit le professeur Nizan, où l'un procrée et l'autre pas, a recours à une tierce personne qui va donner de sa capacité procréatrice pour les aider à mettre un enfant au monde. Ce que ces couples demandent, c'est que cette pratique très ancienne, qui a été si longtemps cachée, qui est encore si longtemps dissimulée, y compris à l'enfant, elle soit assumée et elle soit accessible à ces couples. Et donc, vous revenez en arrière, en fait, sur une contestation de la loi de 2013, et c'est malheureux.
On va partir au standard de France Inter, parce que je pense qu'il y a une question pour vous, Ludovine de la Recherche. Je crois que c'est Hélène qui nous appelle, je ne sais pas de quelle ville, parce que visiblement, l'ordinateur ne fonctionne pas, de Haute-Garonne. Bonsoir Hélène, bienvenue à vous.
Oui, bonsoir, bonsoir à vous. Merci de prendre ma question. Merci beaucoup à Madame Perry, parce que vraiment, j'aimerais que sa parole soit entendue plus souvent. Et moi, je voulais réagir à l'émission précédente quand elle a parlé de cette affiche qui rapprochait la PMA des OGM. Je n'ai pas vu cette affiche, je suis totalement atterrée. Je suis maman d'une jeune fille homosexuelle qui a eu des difficultés à se construire et qui maintenant assume pleinement. Et le mariage pour tous l'a beaucoup aidé, et sa grande question est maintenant de réussir peut-être à être maman. Et quand j'entends la dame là tout à l'heure dire et refuser un petit peu ce cas de figure et dire que le papa va manquer et que c'est donc presque impossible, mais je suis vraiment scandalisée, et voilà, et donc je voulais témoigner, et j'espère que ma fille n'entend pas certains de ces témoignages et ne verra pas cette affiche, parce qu'elle est encore un peu fragile, et voilà, je
merci. Voulais juste témoigner de ça. Merci voilà. Beaucoup Hélène, on va demander effectivement à Ludovine de la Rochère de réagir concernant cette affiche. On rappelle quand même l'affiche de la Manif pour tous, c'est des légumes aligné et donc un bébé au milieu. Et cette question, après les légumes OGM, les enfants à un seul parent, point d'interrogation. C'est une affiche qui fait quand même beaucoup réagir.
Mais j'observe que cette dame n'a pas vu l'affiche et donc regrette cette affiche sans l'avoir vue. Alors cette affiche, elle pose la question de l'usage de la technique, tout simplement. Et il est écrit en gros « Nos PMA sans père ». Donc le sujet est tout à fait cadré, c'est le débat actuel dans la
société. Mais pourquoi une référence aux OGM alors ?
L'usage de la technique. Est-ce que la technique, quel que soit le sujet, pour le vivant, peut être utilisée sans se poser de questions, sans éventuellement poser des limites? Voilà, c'est tout simple.
Alors on va poser la question.
Et ces techniques qui existent depuis un demi-siècle et que vous contestez justement quand elles peuvent s'ouvrir aux couples de même sexe.
Quand elle peut être utilisée sans père, en l'absence de père, c'est encore une fois une question fondamentale. Moi, j'en
c'est
appelle
votre refus
à la
de
réflexion.
Parentalité, c'est tout.
Célibataire ou femmes homosexuelles, je ne vois pas la différence, madame. Le souci, c'est pas l'orientation sexuelle de chacun, c'est le père pour l'enfant. Mais c'est quand même, est-ce que on est sérieux là autour de la table? Un papa pour un enfant.
On essaye en
vous
tout
vous
cas.
Vous vous rendez compte?
Professeur Nizan,
pense que l'enfant de la recherche peut s'en passer.
On va poser les questions au professeur Israël Nizan.
Moi, je note que près de 50% des enfants vivent dans des familles monoparentales. Et que je vous ai pas entendu manifester votre désapprobation de cette situation qui est devenue assez commune. Mais la technique, elle fait quoi en l'occurrence? Elle vient remplacer quelque chose qui a existé de tout temps, en le sécurisant. Lorsque les femmes homosexuelles, il y a une cinquantaine d'années, souhaitaient avoir un enfant, on procédait à des dons de sperme non sécurisés, non protégés, non analysés sur le plan des virus et de la transmission des maladies. Et ce qui se passe maintenant, c'est simplement une amélioration de ce qui se faisait dans l'incertitude et le risque personnel. Et donc la technique ne change pas les choses. Elle permet simplement de sécuriser quelque chose et de faire en sorte qu'une femme ne soit pas obligée de prendre le risque de se contaminer d'un virus ou d'une maladie sexuellement transmissible grave et parfois incurable en procédant sans sécurité médicale et sans protection à quelque chose.
C'est vrai que les relations sexuelles avec un homme, c'est très dangereux. Non, mais c'est connu, hein, excusez-moi, mais c'est faire l'amour pour faire un enfant, c'est quand même assez courant, me semble-t-il. Je vois pas où est le danger immense, pardonnez-moi.
Mais le professeur Nizon vient de vous expliquer quand même que c'était d'autres risques qui étaient en cours.
Je crois que vous ne comprenez pas du tout la situation dans laquelle...
J'ai bien expliqué qu'il s'agissait pour les femmes homosexuelles avant qu'on leur vienne en aide à l'étranger, parce qu'on ne leur vient toujours pas en aide en France. Elles faisaient autrement, elles se débrouillaient pour trouver un donneur. Et elles se débrouillaient sans avoir la possibilité de se mettre à l'abri des complications sceptiques et infectieuse que pouvait leur amener ce donneur.
Oui, et j'ajoute un point quand même, parce que vous avez tout à fait raison sur la sécurité sanitaire pour l'enfant, mais également il y a un respect de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus simple pour une femme que d'utiliser ou d'instrumentaliser un homme pour se faire faire un enfant sans le lui dire. Et justement, les femmes seules ou les couples de femmes pourraient très bien faire ça. La démarche, elle consiste, et Isabelle Guéguen l'a dit, à vouloir construire une histoire que l'on puisse entièrement raconter à l'enfant. Et dans cette histoire, le donneur n'est pas instrumentalisé. C'est un homme qui a choisi de donner du sperme pour permettre à un couple de devenir parent. Il n'est pas en situation ambiguë, il n'est pas un père. Le donneur n'est pas un père, il n'a jamais voulu être un père. Ce sont deux femmes qui veulent qu'un enfant puisse naître. Cet enfant ne serait pas né il y a quelques décennies. Aujourd'hui, il peut naître. Attendu, aimé, espéré par ses mères et par leur famille.
Alors, j'aimerais quand même poser la question à Isabelle Guéguen, qui n'a pas encore réagi à la question de l'affiche, parce que quand vous l'avez vue, cette affiche, comment vous avez réagi, vous, personnellement ?
Moi, personnellement, ça me passe un petit peu au-dessus, mais je pense que ça peut être extrêmement agressant, c'est pas forcément le bon mot, mais pour des enfants de couples homo, et je sais que c'est le cas pour des actions passées, je sais que ça les touche particulièrement, parce qu'ils n'ont pas le blindage que moi j'ai pu construire avec les années. Donc oui, c'est sûr que eux, ça leur fait très mal.
Et vous savez, la question qui est posée, c'est la question de l'écologie. On parle de l'écologie pour le vivant, pour l'environnement en permanence, et puis il faut peut-être qu'on se la pose pour l'homme. Est-ce qu'on utilise les techniques sans s'interroger ? Et cette affiche, elle était avec un point d'interrogation. C'était une question. Et c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser.
On va repartir au standard de France Inter.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Maude est en ligne de Fontenay-sous-Bois. Bonsoir à vous et bienvenue sur l'antenne de France Inter.
Oui, bonsoir, vous m'entendez ?
Très bien, on vous reçoit 5 sur 5.
Eh bien, super. Non, moi j'appelle pour un témoignage, on parle des enfants après, comment ils grandissent. Moi j'ai dans l'école de mes enfants au moins 2 ou 3 enfants issus de parents homoparentaux et ils vont vraiment très bien, si ça peut rassurer tout le monde. Ils vont très bien, ils sont parfaitement intégrés dans la société et nos enfants, mes enfants, ce qu'ils regardent, c'est pas est-ce que c'est un papa et une maman. C'est des enfants qui vont bien avec des parents qui ont très souvent un couple très solide parce que c'est dur d'arriver à cette naissance au final. Donc c'est des couples qui se sont battus, qui ont affronté la société. Souvent c'est des couples qui sont très stables et très épanouis avec des enfants qui vont très très bien. Donc voilà, si je peux rassurer tout le monde, ces enfants vont très bien et mes enfants n'ont aucun regard sur dû à l'étrangeté. Enfin, et je suis très heureuse que pour eux, ce soit une forme de banalité parce qu'ils ils évoluent avec la société.
Merci beaucoup, voilà. Maud, d'avoir appelé France Inter, professeur Nizan.
Quand on dit « ils vont bien », ça veut dire qu'on pose une question médicale. Quel est leur état de santé psychique, psychiatrique? Est-ce qu'ils se suicident plus? Est-ce qu'ils sont plus homosexuels que les autres? Est-ce qu'ils ont plus besoin du psychanalyste? Et quand on va voir la littérature de ce point de vue, tous les indicateurs macropsychiatriques et micropsychiatriques ne montrent pas de différence. Il y a plus de 1000 études, notamment à San Francisco, en Californie, qui
en
ne
Angleterre,
montre pas
les travaux de Suzanne Colombo,
qui ne montre pas de différence. Alors, je veux bien que la 1001e vienne trouver de la différence, mais nous savons déjà, de par l'étendue des travaux qu'il y a sur cette question, qu'il faut pas inventer du mal-être sans pouvoir le prouver. Nous n'avons pas d'éléments médicaux dans la littérature médicale qui permettent de dire que ces enfants, d'une manière ou d'une autre, ni vont être plus homosexuels que les autres, ni vont être plus suicidants, ni vont être plus mal que les autres. Et je peux vous dire qu'il y a des enfants qui naissent dans des paradis familiaux et qui tournent mal, et des enfants qui naissent dans des situations catastrophiques et qui vont bien. Donc qui peut dire quelque chose sur l'avenir d'un enfant ?
Est-ce que l'on pourrait poser une question? Je voudrais vous poser une question, Madame de la Rochère, carte sur table. On sait que l'Église de Rome est totalement opposée à la procréation médicale, et en particulier à la procréation médicale avec don. C'est 1987, les recommandations d'Onum Muitae de Joseph Ratzinger, le futur Benoît XVI. Êtes-vous favorable ou opposé, en général, à la procréation médicale avec don?
Alors, je vois pas le rapport avec la position de l'Église, je vois pas le rapport du débat avec la position de l'Église, excusez-moi.
Je vous demande,
et on ne parle pas de la PMA d'une manière générale, et j'ai beaucoup de choses à
répondre.
Est-ce
que vous voulez bien répondre à ma question? Êtes-vous personnellement favorable ou opposé à la PMA avec don?
Je vais y venir, parce que justement, la PMA avec donneur anonyme, et nous en parlions tout à l'heure avec le professeur Nizan.
Elle est gênée, manifestement.
J'y viens. La PMA avec donneur anonyme pose également un problème de rupture de filiation, et les personnes qui sont nées de donneurs anonymes, qui ne savent pas qui est leur père, encore une fois, connaissent, pour beaucoup, pas tous, heureusement, mais un certain nombre témoignent, et il y a eu un grand article d'ailleurs dans Le Monde, il y a quelques jours, témoignent de leur recherche, de leur manque. C'est une vraie question.
Mal.
Alors,
pardonnez-moi,
je voudrais, cette fois-ci, je voudrais...
Vous tombez vraiment mal, vous tombez sur une des très rares personnes
ne me coupez
qui
pas
accompagne
la parole,
ses enfants depuis 17 ans.
Oui, alors
et
je
ne vous ai jamais vu vous intéresser à cette question, sauf depuis qu'il est question d'ouvrir la PMA aux couples de femmes. Ça m'interroge vraiment.
Non,
aux dernières rénovations des lois
années,
bioéthiques, nous étions seuls. Nous étions très peu nombreux à poser la question de l'anonymat des donneurs de gamètes ou de l'accès aux origines. Vous n'en faisiez pas partie.
Nous, on a fait la manif
pour tous,
n'existait pas et je n'avais pas l'honneur de vous connaître.
Vous intéresser à cette question depuis qu'il est question de l'ouvrir aux couples de femmes et vous n'avez pas répondu à ma question très simple. Êtes-vous pour ou contre la procréation médicale avec don?
Non, je pense que ça pose un problème immense et que ça génère des souffrances.
Si ce n'était pas anonyme,
Si le don n'était pas anonyme, alors, très intéressant votre question. Donc vous estimez, parce que je sais...
Et après, on ira au standard, parce que nous avons une question justement qui se pose là-dessus.
Avec l'Église ou pas?
Mais
ça nous intéresse.
Mais quel est... Non, mais ça vous intéresse, vous,
mais
c'est pas ce qui intéresse les auditeurs.
Monde.
Attendez, le cœur du sujet, c'est quoi? C'est l'enfant, c'est la paternité. Et alors, permettez-moi, je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, les familles monoparentales. Oui, les familles monoparentales, par accident de la vie, par aléa, mais la plupart connaissent leur père et leur mère et ont des relations avec les deux, premièrement.
Alors pour en revenir,
deuxièmement,
pardon, Ludovine de la
les
Rochère.
Les familles monoparentales vivent des difficultés qui sont connues. On va faire comme si de rien n'était, on nommait tout ça et on ouvre cette possibilité-là
en tout cas, on va
pour les femmes seules.
Poursuivre la réflexion sur les dons, parce que figurez-vous que Marc est en ligne et qu'il a justement une question à poser à ce sujet. Marc, bonsoir, c'est à vous, vous êtes sur l'antenne de France Inter.
Oui, bonsoir. Je voulais tout d'abord dire que j'étais favorable à la PMA. Et la question, est-ce qu'on ne pourrait pas justement lever l'anonymat pour que des donneurs puissent dire qui ils sont et que les enfants puissent connaître justement leur filiation, et ça enlèverait effectivement une partie des réflexions, à mon avis, désagréable qu'on vient d'entendre sur la filiation.
Merci beaucoup Marc pour cette question. J'ai envie de la poser à Isabelle Guéguen qui est allée justement aux Pays-Bas où je pense qu'il y a possibilité de lever l'anonymat du don, c'est ça
C'est pour ça qu'on est allé aux Pays-Bas. Il y avait des pays plus près, mais comme on a fait tout ce chemin de réflexion et que de toute façon, ça n'allait pas être simple, autant choisir ce qui nous convenait le mieux et nous semblait le mieux. Donc je pense que personne n'a la vérité là-dessus. Mais nous, dans le doute, on a effectivement souhaité laisser la porte ouverte. On ne voulait pas qu'un médecin ait accès à l'histoire de notre fille et que notre propre fille ne puisse pas voir son dossier. Ça nous semblait aberrant. Et donc du coup, peut-être que si ça avait été possible en France, on l'aurait fait en France avec la législation actuelle. Mais là, on a pris la peine d'aller jusqu'aux Pays-Bas pour cette raison-là, pour qu'elle ait accès à son histoire.
Oui, ce qu'on peut dire d'un mot, c'est que surtout, parmi nos auditeurs, que personne ne s'inquiète. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne sauront pas qui est leur donneur. Des enfants le sauront, mais toutes les familles arriveront à faire, avec ça. Les familles arriveront à faire avec ça. Mais par contre, il y a un vrai problème de justice derrière ça. Est-ce qu'il est justifié qu'une information sur une personne qui est connue, parce que l'identité du donneur, elle est connue des médecins, elle est enfermée dans une armoire forte pendant 30 ans. Est-ce qu'il est justifié que cette information ne soit pas donnée, comme si l'enfant n'était pas né justement d'un donneur qui est une personne et qui n'est pas un matériau interchangeable de reproduction et qui a donné de sa capacité procréatrice pour que les futurs parents, les parents intentionnels, deviennent parents. Donc, ce qui est important, c'est que cet homme, il faut le respecter. Cet homme n'a jamais voulu être un père. Il est un père par ailleurs, mais quand il donne pour qu'un autre homme soit père ou pour que deux femmes soient deux mères. Et donc, le respecter, ça n'est pas le transformer en père malgré lui, comme Ludovine Larochère vient de le faire, en disant que sous prétexte qu'il est le géniteur, il serait le père. Le principe de la PMA avec don, c'est justement qu'on peut dissocier.
Pas de père.
Il a un donneur et il a deux mères. Un enfant peut avoir deux mères ou peu importe, un père et une mère. Mais de toute façon, le donneur et les parents, c'est deux choses différentes.
Professeur Nizan.
Oui, c'était louable dans les années 70, au moment du début du don de sperme, de se préoccuper, vu la structure de la famille, un père, une mère, un enfant, que lorsqu'un homme était stérile, on ait recours secrètement au don de sperme. Et le couple rentrait dans la maternité, ressortait, il y avait un enfant, ni vu, ni connu. C'était, on transformait le donneur en passager clandestin. C'était les années 70. Aujourd'hui, tout le monde constate que la famille a changé. Et aujourd'hui, plus personne n'accepte l'idée que des règles qui ont été inventées par les transfuseurs, où il y a un donneur et un receveur, aient été transférées sans autre forme de procès au don de gamètes, où il y a un donneur, un receveur et un enfant. Mmh. Ces enfants sont là, ils ont 40 et 50 ans. Et certains nous disent, j'ai un papa d'amour, je ne cherche pas un papa, je cherche à savoir pourquoi il a été donné ce jour-là, et je veux boire une bière avec lui. Ça fait partie de ma vie et de ma biographie. Je pense que nous sommes un des derniers pays de l'Europe occidentale à cacher une partie de la biographie et à transformer les donneurs de sperme, mais aussi d'ovules, en matériaux biologiques. Et j'entends très fort la souffrance de ces jeunes et de ces adultes qui disent « Vous, vous avez la chance d'être issu d'un père et d'une mère. Moi, je suis né d'une mère et d'un matériau. C'est dur. »
Vous seriez rassuré, Ludovine de la Recherche, si on levait l'anonymat
du
don ? Bien sûr,
mais vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous reconnaissez vous-même, tous autour de la table, que la filiation, ce dont on est, ce dont on procède, bien sûr, dans la filiation, il y a plein d'aspects différents, mais il y a notamment, tout simplement, le fait d'être à l'origine de la vie, le fait de se ressembler, le fait d'avoir quelque chose, beaucoup de choses en commun. Vous le reconnaissez, nous sommes d'accord là-dessus.
Non, nous sommes en désaccord. Le donneur n'est pas un père.
Non, mais
dites-le.
La filiation. Un père, c'est quoi ? Un père.
C'est pas des gènes.
Un père, la filiation, le lien entre le père, enfin, un parent et l'enfant, c'est à la fois psychique, social, culturel, génétique. Il y a tout cet ensemble. Et ce dont on parle là maintenant, c'est d'éclater tout ça comme un puzzle, de faire éclater tout cela. Et alors, on aurait un père social, un père génétique,
etc. Un père adoptif n'est pas un vrai père.
Oui. Mais on répare un accident de la vie au mieux pour l'enfant. C'est tout à fait différent. C'est comme l'effet monoparental dont vous parliez. Ce sont des accidents de la vie. Et là, l'État, parce que vous évoquiez le fait qu'on peut recourir à la technique et ça va être formidable. Donc, sauf sauf que la mise en place de la technique, c'est l'État. L'État va instituer le fait de faire des orphelins de père volontairement.
Donc volontairement. Nous avons bien la réponse. Madame de La Rochère n'est pas favorable
à la PMA,
avec don en général. C'est ce que je voulais qu'elle
dise. Isabelle... Je vous l'ai dit, madame, je vous l'ai
voilà,
dit.
Non, mais c'est très bien. Donc,
je pense que c'est une souffrance, oui. Donc, et d'ailleurs, et donc, le professeur nous en vient le dire.
Mais puisque c'est une souffrance, il faut l'interdire.
Vous en prenez au couple de femmes, alors qu'en fait, votre combat est plus général.
Je vous parle de l'absence de père. L'absence de père, c'est quand même énorme. Parce que tous les pères, on s'en fiche. Et c'est ça qu'on leur dit.
On va essayer d'avancer. Isabelle Guéguen souhaitait prendre la parole il y a quelques instants. Et après, on repart au standard de France Inter quand même.
Oui, donc je voulais juste réagir à vos propos et dire que nous, ce qu'on veut ouvrir, c'est l'histoire de l'enfant, c'est d'où il vient, mais pas parce qu'il lui manque un père, mais parce que c'est important qu'il puisse avoir toute son histoire. Mais ensuite, il faudrait réfléchir à ce que vous dites quand vous dites que l'amour d'un père manque. Qu'est-ce que c'est que l'amour d'un père? Enfin, en quoi est-ce que c'est différent, à moins que ce soit l'amour de celui qui descend les poubelles? J'imagine que non, j'espère que non. Mais du coup,
quel est le rapport avec celui qui descend les poubelles?
Qu'est-ce que vous appelez l'amour d'un père?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je comprends pas.
Ben moi, je ne comprends pas ce que vous dites quand vous dites qu'il manque l'amour d'un père.
Oui.
Ah bah parce que vous avez l'air d'avoir une vision extrêmement hétéronormée, passéiste.
Du couple. Le fait est que pour naître un enfant, il a besoin d'un homme et d'une femme, et vous avez eu un père et une mère, nous en avons tous.
Absolument. Il a un donneur, et il a une femme qui l'a porté, absolument, on ne le nie pas.
Mais on ne peut pas réduire un père à une paillette de sperme, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est bien dramatique d'en venir à des considérations comme celle-ci, qui sont tellement réducteurs des hommes et des pères, et ce serait pareil pour la mère, bien sûr.
Alors, pardonnez-moi, nous allons repartir au standard de France Inter, puisque cette émission s'appelle Le Téléphone Sonne. C'est Laurence qui est en ligne de Paris. Bonsoir Laurence, bienvenue à vous.
Bonsoir, merci de prendre ma question. Alors je voudrais juste en préambule dire que je ne suis pas lesbienne, je suis juste célibataire. et j'aurais juste voulu donner un tout petit éclairage, un tout petit peu différent, parce que depuis le début de l'émission que j'écoute avec joie, j'entends quand même un seul son de cloche. D'abord, c'est un peu déséquilibré parce qu'il y a trois personnes contre.
Oui, mais elle s'exprime bien, Ludovine de La Rochère.
Voilà, non, mais bon. Je voulais dire que moi, j'étais donc célibataire. Hélas, je n'ai pas d'enfant. Et je suis contre la PMA, je n'irai pas. Même si j'en ai pleuré pendant des mois et des mois de ne pas pouvoir avoir d'enfant, donc je comprends très bien la souffrance que ça peut être de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Mais j'arrive pas à comprendre. Enfin, si une femme célibataire ou un couple de femmes peut, parce que c'est la technique qui la rend possible, avoir un enfant, comment est-ce qu'on pourra expliquer à un couple de deux hommes qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant alors que la technique leur donne la possibilité de le faire aussi? Parce que la GPA, c'est une technique qui fonctionne. Donc, je n'arrive pas
merci.
À voir...
Merci. Je suis obligée de vous couper, Laurence, parce que le temps tourne, il est 54. J'ai bien compris votre question. Si on ouvre la porte à la PMA, prochaine étape, la GPA, en gros, c'est ça que vous nous dites. Et c'est pas complètement illogique, professeur Nizan.
À titre personnel, je pense que c'est pas juste une technique. La GPA, c'est fait d'abord pour les couples hétérosexuels où il manque l'utérus de manière définitive. On l'a un petit peu oublié, mais il y a dans notre pays 15 000 femmes qui ont une stérilité utérine définitive, soit parce qu'elles sont nées sans utérus, soit parce qu'elles ont perdu leur utérus dans une catastrophe obstétricale, souvent en même temps que l'enfant d'ailleurs. Et ces femmes-là demandent non pas la greffe d'utérus qui est d'une complexité terrible, mais elles demandent qu'une autre femme puisse, par compagnonnage entre deux femmes, puisse l'aider à constituer famille. Et donc, moi, je suis favorable au cas par cas. Pas la liberté totale, mais le cas par cas. Maintenant, je suis sensible au fait que il y a un problème d'inféodation de la femme et d'exploitation de la femme. Et je pense que si on ouvrait la PMA au couple d'hommes, la GPA au couple d'hommes, la demande serait telle qu'on serait submergé par un flux de demandes extrêmement important, ce qui n'est pas le cas si on traite simplement la stérilité utérine définitive.
Irène Théry, vous souhaitiez réagir?
Oui, je pense que la nouveauté, c'est donc ces engendrements avec un tiers donneur, qui peut être un donneur de sperme, une donneuse d'ovocytes, des donneurs d'embryons ou une donneuse de gestation. Et évidemment, tous ces dons ne sont pas semblables. Et donc, le raisonnement que j'entends, en particulier par les opposants à tout, qui est de dire, vous ouvrez la PMA, il y aura inéluctablement la GPA, est complètement vicié, ce raisonnement, puisque la GPA, elle est interdite en France à tout le monde. Et elle est interdite en France à tout le monde parce qu'on pense en France que justement le don qui est demandé à la femme est un don qu'on ne peut pas justifier. Donc, je pense que on devra avancer sur cette question. Pour ma part, je sais qu'il existe dans d'autres pays des GPA qui sont complètement instrumentales et des GPA qui sont au contraire absolument admirables. Mais le débat, en tout cas, concerne tout le monde. Donc l'argument que la logique d'égalité va amener inéluctablement à la GPA est absurde parce que on demande l'égalité quand quelque chose est disponible à certains couples et pas à d'autres. La GPA, pour le moment, c'est disponible à personne. Donc c'est un faux argument que celui de cette pente glissante qui, si on ouvre la PMA aux couples de femmes, nous conduira à la GPA. On aura la GPA quand on l'aura voulu décider parce qu'on pensera que c'est une bonne chose pour le pays.
Ludovine de la Recherche, vous avez 30 secondes et puis chacun 20 secondes et puis après c'est terminé, malheureusement.
Alors, Madame Théry, vous dites que je suis opposante à tout. Eh bien non, je suis favorable aux droits de l'enfant, figurez-vous.
Il existe dans la Convention... Vous allez nous dire que vous étiez favorable à la GPA.
Dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il est dit que l'enfant a droit à ses parents. Eh bien, je suis favorable à ce droit et je défends ce droit. Vous voyez, je ne suis pas opposée à tout, loin s'en faut.
Vous êtes favorable à la famille traditionnelle.
Je suis favorable aux droits et aux besoins de l'enfant et au respect et j'appelle à réfléchir en conscience, à discerner. Il y a une question de responsabilité collective. Nous sommes tous concernés, tous touchés. Et d'ailleurs, s'il y a la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, il est vrai qu'il y aurait la GPA à un moment donné pour une raison d'égalité avec les célibataires et les couples d'hommes.
Je vous remercie. C'est une évidence. Ludovine de la Recherche, vous avez chacun, même pas 10 secondes, Isabelle Guéguen, un souhait peut-être, une priorité actuellement dans ce pays, si vous pouvez résumer en deux mots.
Je devrais probablement pas dire ça parce que ça va sûrement me desservir dans le débat. Mais moi, la GPA, je voudrais qu'on en parle. Je pense que si je fais l'analogie avec la greffe d'organes, c'est pas parce qu'il y a du trafic d'organes qu'il faut arrêter le don d'organes. Donc je pense qu'il faut au contraire avoir ce débat d'une GPA éthique et bien structurée qui pourrait rendre service et aux femmes donneuses et aux couples qui sont en recherche.
Moi, j'ai une petite question, Israël Nisan, une dernière petite question. Dans l'état actuel des choses au niveau médical en France, si on ouvre la PMA à toutes les femmes, est-ce qu'on a les moyens de répondre aux demandes? Est-ce que les structures sont suffisantes? Est-ce que les dons sont suffisants? Qu'est-ce qu'il faut?
On n'a pas les moyens. Mais ce que je voudrais dire, c'est que depuis la nuit des temps, depuis la nuit de l'humanité, on dit aux femmes ce qu'elles doivent faire de leur corps. Et je pense qu'il faut arrêter ça. Et arrêtez de dire aux femmes ce qui est bon pour elles.
Merci beaucoup, professeur Nisan. Irène Théry, 20 secondes, et puis c'est terminé pour vous aussi.
Je pense qu'on a les moyens, si on s'en donne les moyens. Il y a 300 à 400 donneurs de sperme en France. Doubler ce chiffre n'est pas un problème si on fait une bonne campagne. Il n'y a pas assez de donneurs parce qu'on ne valorise pas les dons, parce qu'on les cache. Avec les couples de femmes, on va faire un progrès moral. On va sortir de la logique du mensonge et entrer dans celle de la responsabilité.
Merci beaucoup, Irène Théry, d'être restée 2 heures avec nous. Et merci à tous d'avoir dialogué dans le calme ce soir. C'est la fin de cette émission.